A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute! Parler dedans pour que je vois si je dois...
Allô, allô. Oui, bonjour. Bienvenue sur Parlons Podcast.
Quelle voix, j'adore.
Non, mais ça, je vais pas tenir comme ça. Je vais reprendre mon ton excité de présentateur météo.
Mais c'est ça qu'on aime bien. Alors, justement, j'écoutais ton podcast, ton épisode sur les astuces, les tendances marketing 2023.
Ouais.
J'ai trouvé hyper intéressant et j'ai adoré ta façon de faire comme si c'était un journal, en fait, et des news.
D'accord.
Si volontairement ou pas.
Non.
Franchement, j'ai adoré ton intonation et tout, parce que, mine de rien, j'écoute beaucoup d'interviews sur ton podcast. Il y a des épisodes solo de temps en temps, mais c'est vrai que les épisodes comme ça, j'ai adoré. Franchement, je sais pas si tu l'as fait exprès, du coup.
Pas du tout, mais ça, c'est un truc que j'adore, c'est que souvent, on me dit hey, « Eh, ça, bien joué d'avoir fait ça !» Et en fait, je l'ai pas trop conscientisé. Et c'est le fait, on va en parler dans ton épisode, le fait de tester beaucoup de choses. Ouais. Bah du coup, ça fait que finalement, vous faites des gros fails et parfois, vous tombez sur des pépites où on vous dit « Attends, ta stratégie, elle est incroyable !» Moi, ma stratégie, c'est touche à tout, j'appuie sur tous les boutons.
Et du coup, c'est intéressant et c'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. En préparant l'épisode, je me suis dit « Il y a tellement de choses que tu as faites que je vais essayer d'être succincte pour te présenter. Juste en mentionnant que tu es la fondatrice de la plateforme Reachmaker qui vise à mettre en relation les créateurs de contenu, les entrepreneurs et pourquoi pas les marques pour des partenariats de visibilité ou de monétisation. Tu es également la cofondatrice de Refer, qui est une application qui est maintenant une extension de navigateur.
Wow, t'as suivi.
Je suis ton travail, j'adore, qui vise à mettre en relation les gens, ce qui est très très cool parce que c'était un peu chiant de devoir envoyer des emails par-ci par-là. Tiens, voici le contact de...
Prospection chaude.
Ouais, donc ça c'est cool. Et tu es également l'hôte de 2 podcasts et non pas un seulement. Donc il y a Marketing Square, qui est, comme son nom l'indique, un podcast sur le marketing. Mm-hmm. Et le deuxième qui s'appelle Performer sur LinkedIn, où là c'est exclusivement du contenu court, pratique et efficace sur LinkedIn.
C'est hyper bien résumé. Franchement, tu devrais faire du podcast, Safia. effectivement, pour résumer brièvement, je suis fan de marketing et d'entrepreneuriat et je le documente et j'essaye de l'outiller au maximum.
Ça se voit et ça se ressent dans ton contenu, c'est hyper naturel. Tout ce que tu crées, tout ce que tu partages, en fait, on sent qu'il y a une vraie volonté, tu vois, de partager avec les gens, de genre, j'ai appris telle chose, voilà comment ça peut t'aider et que c'est pas juste une stratégie de contenu hyper carrée, pensée et intentionnelle. C'est vraiment, on sent qu'il y a de la passion derrière, quoi.
C'est clair.
Donc ça, c'est cool. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on gère 2 podcasts ?
Alors, déjà, on va être transparent. Et comme souvent, en fait, quand on voit ce que font les autres, on se dit toujours, ouah, c'est beaucoup, j'arriverai pas à faire autant. Et en général, comme pour les magiciens, il y a toujours un truc. L'épisode performé sur LinkedIn, enfin, le podcast performé sur LinkedIn que tu connais, il a été entièrement produit par La Toile sur Écoute. Okay. Et ça correspond à 3 demi-journées d'enregistrement. Donc, en fait, c'est des petits épisodes qui font de 1 à 3 minutes, qui reprennent les questions récurrentes que j'avais sur LinkedIn. Donc, Pénélope Boeuf, qui a le studio La Toile sur Écoute, qui est un peu une maman du podcast, elle a fait du podcast avant tout le monde, elle nous a ouvert la voie, ouais. Elle a un studio et en fait elle s'occupe de tout pour toi et l'idée c'est que t'arrives avec les contenus de tes épisodes et t'arrives chez elle, tu branches le micro et c'est parti, elle a tout packagé pour nous, elle a pris ses superbes photos, c'était la première fois de ma vie que j'avais des photos pas éclatées, donc j'étais trop contente, du coup elle sent tous les épisodes, elle fait les descriptions, elle fait même la promotion, donc derrière en fait ce que vous voyez qui est une centaine d'épisodes sur LinkedIn, moi ce que j'ai fait c'est que toute la journée, je recevais des questions sur LinkedIn, comment alimenter ma page entreprise, comment faire grossir mon nombre d'abonnés. Et en fait, à chaque fois que je faisais une réponse, je la documentais aussi parce que je t'en ai parlé en off. J'ai une mémoire de poisson rouge, des capacités mnésiques limitées, comme dit mon neuro. Et du coup, j'écris tout, sinon j'oublie. Et vous voyez à quel point, en fait, nos faiblesses et nos complexes dans la vie, on peut les transformer parce que le fait d'écrire tout, je peux facilement le documenter. Et j'ai créé ce podcast hyper rapidement à la chaîne. Et aujourd'hui, du coup, c'est voilà, 3 demi-journées de travail et peut-être, je dirais, en préparation, 1 heure par épisode environ.
Ok. Et c'est un podcast qui a une durée de vie limitée. Est-ce que tu as fini un contrat, je ne sais pas, pour 2-3 ans ou est-ce que ça vit tant que ça vit et en fonction de tes idées, tes envies?
On a fait un contrat sur 80 épisodes, je crois, 70 ou 80 épisodes. Et le deal proposé par Pénélope, puisqu'on va parler de monétisation, et je veux vraiment vous donner du concret parce qu'il y a un nuage de fumée dans le podcast. Ouais. Qui gagne quoi, on entend un petit peu tout et rien sur le sujet. Parfois même, ça change de version. Le deal avec La Toile sur Écoute, et tous les deals, je pense, sont différents. Mais comment on a fonctionné avec Pénélope, nous, c'est elle a tout produit pour moi. Sur la partie branding, elle m'a fourni le studio et moi j'ai créé du coup les épisodes, les thématiques, le contenu et c'est ma voix et on fait 50% sur les revenus publicitaires.
Ok, donc c'est des revenus publicitaires.
Exactement.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est une stratégie intéressante et c'est vrai que c'était un bon coup de com. Genre, on vous a vu arriver en bombe sur l'application, ouais. En tout cas sur l'application Apple Podcast avec vos belles vignettes bien colorées et tout. C'était tape à l'œil. C'était une super stratégie. C'était un bon coup de visibilité.
Tu le sais, Safia, le podcast, c'est intimidant. Et ouais. Je pense que le trait de génie de Pénélope, c'est qu'elle s'est dit, en fait, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est difficile de lancer son podcast. Et du coup, tu as des experts qui ne sont pas présents sur le réseau et tu as des niches de podcasts qui ne sont pas encore représentées, comme le copywriting avec Nina, que t'as reçu, la crypto avec Caro, Instagram avec Aurélie Moulin. Et en fait, elle s'est dit, bah, il faut leur donner la parole, je vais leur donner les moyens de faire leur podcast, juste bah, en appuyant sur un bouton et on va mettre ça, du coup, à la portée de tous.
Ouais, pour le coup, c'est carrément mission accomplie. Et donc, tu es également l'hôte du podcast Marketing Square qui a bientôt 2 ans. Exactement. Et qui a connu pas mal d'accomplissements et d'évolutions depuis ce petit bout de temps-là. Mais ce n'était pas ton premier essai de podcast Marketing Square.
Exactement. Et là, on passe dans les coulisses, les coulisses de la création de contenu. Et un grand merci, Safia. Marketing Square, c'est toi qui l'as fait naître ou renaître, parce que tel le phénix, il est rené de ses cendres, il a renaquis de ses cendres. L'idée de Marketing Square, c'est du coup des épisodes ultra actionnables sur le growth marketing, donc comment faire grandir ses projets ou son entreprise. Et quand je t'ai connue, on a fait ensemble une formation en commun. On était réunis par Inès Sivignon, ouais. Qui a dit un peu, comme Pénélope Boeuf l'a fait plus tard pour le podcast, Inès nous a dit, bah en fait, je veux créer une formation sur vos domaines d'expertise. Toi, Safia, tu avais déjà ta formation sur le podcast. Moi, j'avais créé un podcast pour faire la promotion de Richmaker qui s'appelait Les rendez-vous du co-marketing, qui n'intéressait personne parce que j'étais beaucoup trop nichée. Qui a envie d'écouter une histoire de collab par semaine à part Caroline Mignot? Personne. Donc, j'avais fait un podcast pour moi qui ne marchait pas, mais c'était pas grave. De toute façon, je fais plein de trucs qui marchent pas. C'est le jeu. C'est comme ça qu'on fait des choses qui marchent. Et au moment où on arrive dans la formation, Safia me dit, eh ben, dis-moi ce que tu penses de ma formation. Et du coup, je suis la formation de Safia et je fais, waouh, en fait, il y a une méthode. Moi, j'ai fait ça comme un chien fou, comme un chien dans un jeu de quilles. Et je suis à la lettre la formation de Safia. J'ai cette formation en juillet. En août, je me mets en mode ermite pendant 1 mois. Parce qu'il faut le dire, c'est beaucoup de travail si vous voulez, ouais, avoir du résultat. Pendant 1 mois, je me mets en mode ermite et je me mets en mode obsession podcast. Et je lis tout sur le sujet, mais tout, 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 et je fais en fait mon plan d'action. Et en septembre, j'arrive avec un épisode par jour, un petit épisode de 10 à 15 minutes sur une problématique marketing, parce que j'avais un problème de positionnement. J'étais partie sur la collab, et en fait, là, j'élargis. Je me dis, pourquoi les gens font des collabs ? Bah, pour performer, pour grandir plus vite. Donc, je fais un podcast sur la croissance marketing et j'atteins les 50 000 écoutes mensuelles en 3 mois, primé sur Apple Podcasts, podcast de l'année. J'ai cru que c'était une erreur. Quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, bah, il va y avoir un virement Western Union quelque part. C'est une blague. Donc, j'ai reçu un email de Apple Podcasts en novembre, donc 2 mois après avoir sorti mon podcast, qui me disait, bah, vous êtes sélectionné dans les coups de cœur de l'année. Tenez le secret avant la sortie, le reveal en décembre. Et genre, franchement, c'était tellement dur, j'étais tellement excitée. Et pour ceux qui nous écoutent, bah, ça arrive vraiment en fait, de faire un podcast indépendant, de penser que vous n'êtes pas trop fait pour ça, et au final de recevoir la lettre de Poudlard, vous avez été sélectionné. Voilà, c'est l'histoire de mon podcast.
Et je trouve que c'est une super belle histoire, effectivement, cette notion de ne pas abandonner, de dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a forcément des raisons derrière. Et qu'en apportant des changements, et en... je trouve que t'as... Parce que la force du truc, c'est aussi que tu t'es pas contenté de... entre guillemets, suivre la formation et toutes les ressources que tu as pu trouver, c'est que tu es vraiment allé chercher un élément différenciateur. Et quand tu as lancé Marketing Square, il n'y avait pas tellement de podcasts qui étaient sur ce format-là, avec des contenus courts, beaucoup d'interviews, tous les jours, une quantité de valeur et de contenu très pratique. Et mine de rien, on a senti tout le travail qu'il y avait aussi derrière. Tu vois, au-delà de tu as eu des infos, certes, mais tu es allé quand même chercher beaucoup plus loin pour que les choses se passent et que tu obtiennes des résultats, quoi. On l'a senti.
C'est important de dire que effectivement il y a beaucoup de travail derrière un podcast. Ma stratégie de lancement, j'ai fait 60 épisodes d'affilée, week-end compris, donc pendant 60 jours, j'ai frôlé le burn-out. Je t'ai dit, hein, on va parler de façon transparente aujourd'hui. La création de contenu, c'est très difficile. Faites attention quand vous commencez à être irascible, quand vous commencez à être obsédé, quand vous perdez le contact avec votre groupe d'amis, quand les gens vous disent « on ne te voit plus ». Ça, c'est un signal fort. Il faut l'écouter. Et au bout de 60 épisodes, mon podcast avait une croissance exponentielle. Et Dieu sait que c'est un moteur. Mais il faut aussi savoir ralentir sa croissance si vous voulez tenir sur la durée. Et aujourd'hui, du coup, je suis à 3 épisodes par semaine. Et j'ai trouvé des stratégies. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être dans un prochain épisode. J'ai trouvé des stratégies pour que vous puissiez, en fait, bah, gagner plus d'écoute en travaillant moins. Et vous avez moyen de créer 3 épisodes par semaine à partir même d'un seul contenu. Donc voilà, il faut aussi se décharger de ce truc-là. La fréquence, c'est important. Il y a des stratégies pour pas se cramer, en fait.
Ouais, complètement. Et c'est bien que tu mentionnes qu'effectivement, tu es parti sur un lancement avec un épisode par jour, mais que ça n'a pas duré tout le temps, que c'était vraiment le temps de lancer le truc, pour toi, de pratiquer, de t'habituer à l'exercice, etc. Et une fois que la machine est lancée, bah, ça t'a permis, toi, de prendre un peu de recul et te dire « Ok, je fais un petit break, ralentis le rythme et la prod, quoi. »
Mais voilà, derrière la lettre de Poudlard, vous voyez, c'est pas de la magie. Mmh. C'est aussi, j'ai appuyé sur le champignon, quoi.
Ouais, et tu vois, mine de rien, c'est pas étonnant que t'aies fait un podcast où il y a, je dirais, 80% d'épisodes qui sont des interviews, parce que t'es quand même une nana qui est vachement sur le relationnel, le réseautage, la discussion, l'échange avec les gens, le partenariat, la collab. Hein, c'est d'ailleurs, si on cherche du contenu te concernant sur Internet, on va trouver du contenu en rapport avec les collaborations, le co-marketing, tu nous l'as mentionné le terme tout à l'heure, etc. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton ressenti par rapport à cet angle-là? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui avancent seuls et qui ont peur ou qui n'osent pas finalement aller vers les autres alors que ça représente une vraie force.
En fait, moi, j'ai toujours fait du partenariat, même en dehors du milieu professionnel. J'ai créé des colocs, j'ai créé des couples, j'ai créé des boîtes de cofondateurs. Et je pense que dans la vie, vous avez tous différents types de talents. Il y a des gens qui sont des connecteurs. Et vous qui nous écoutez, je suis sûre que vous pensez à un tel ou peut-être à vous-même et vous dites « Ah, en fait, je suis un connecteur ». C'est-à-dire que, en général, c'est beaucoup le cas chez les extravertis. Vous êtes tellement, en fait, connectés aux autres que bah, vous ressentez ce qu'ils ressentent, vous ressentez leurs besoins. Et quand vous parlez à 2 personnes, parfois vous dites oh, « faut absolument que je vous présente ». Et en fait, dans le milieu professionnel, j'ai fait ça avec les boîtes, tout simplement. Donc j'ai utilisé mon talent, mais c'est le propre d'un talent. Quand on l'a, on a l'impression que tout le monde est comme ça. Et du coup, je me suis spécialisée dans le partenariat, qui est une branche du growth, du coup du marketing de croissance. Et naturellement, quand je suis arrivée dans le podcast, je me suis dit bah, « en fait, si on veut tout défoncer », Il faut mettre en avant tout le monde, mais j'ai pas eu la stratégie des gros invités, qui est une vraie bonne pratique. Oui. Ça fonctionne du feu de Dieu. Avoir des invités influents qui ont des communautés, ça fait que votre podcast va grandir plus vite parce qu'ils vont vous apporter de la visibilité. Mais la stratégie des petits invités, ça fonctionne aussi. Parce que finalement, c'est des petites audiences avec des gens qui ne sont pas forcément du sérail, du monde du podcast. Et ça, en fait, ça ouvre le marché du podcast. Parce que vous allez toucher beaucoup plus de monde. Donc moi, j'ai invité un peu, j'aime pas dire tout le monde, parce que c'est que des étoiles montantes. C'est que des gens qui avaient du talent. Et le talent de la générosité, c'est un talent. C'est-à-dire pouvoir parler sans langue de bois, transmettre tout ce qu'on sait, ne pas avoir peur que on nous pique nos idées. Se dire une idée, si on la partage, elle prend de la valeur. Et elle prend tout son sens. Et je pense que c'est ça qu'il y a derrière la collaboration aujourd'hui. C'est tu peux grandir sans, mais avec la collab, tu grandis plus vite. Et surtout, il y a une partie importante des gens qui vont te le rendre. Et ça, c'est un accélérateur business incroyable. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui en m'invitant, par exemple, dans ton podcast.
C'est vrai que c'est du co-marketing, ouais, complètement. Moi, je trouve que c'est une stratégie qui est hyper importante, surtout pour les podcasteurs. Il n'y a pas plus efficace en termes de visibilité que de collaborer avec d'autres podcasteurs. Pour moi, la communication sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais tes publications, elles vont intéresser, elles vont atteindre principalement les gens qui te connaissent déjà. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Ce n'est pas vraiment du marketing en soi, du coup, alors que la collaboration et le co-marketing, c'est ce qui va te permettre de grandir finalement et d'évoluer.
Exactement. Et même la collab avec les marques, souvent, et là aussi, c'est important de casser les idées préconçues parce qu'on lit que des articles maintenant sur ChatGPT qui disent « Vous pouvez monétiser votre podcast à partir de 2 ans ». Si vous avez une collab avec une marque, ne pensez pas que ça va tuer votre audience et vos écoutes. Au contraire, si c'est bien fait, une collab, ça va vous faire grandir. La marque, elle va aussi vous promouvoir. Elle va vous apporter aussi de l'autorité auprès de votre propre audience. Donc, collab avec des créateurs, un grand oui. Et même collab avec des marques, si c'est bien choisi, un grand oui aussi. Il n'y a que des avantages et pas d'inconvénients quand c'est bien fait.
C'est vrai, c'est un point effectivement qui est important. Aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de monétisation du podcast. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vague. Alors, il y a quelques mois, c'était fin mars, j'ai donné une conférence à des podcasts et des thunes, un événement organisé par Laurent Brouat sur effectivement cette question de la monétisation quand on est podcasteur. Et moi, la conclusion que j'en ai tirée après les échanges, les astuces, les parcours, etc., c'est que c'est dur. Ouais. C'est que c'est dur de monétiser un podcast, qu'on n'y est pas encore au niveau des États-Unis, tu vois, en France, qu'on rame beaucoup quand on est podcasteur. Toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit « je vais monétiser Marketing Square » ?
Bah, j'ai appuyé sur un bouton. Comme d'hab. Il n'y avait pas trop de stratégie. En fait, j'ai commencé à être contactée par des marques pour de l'influence sur LinkedIn.
Ouais.
Et je me suis dit, en fait, Marketing Square, je digresse un peu, mais je pense que c'est une info qui peut vous intéresser. Il y a il y a comme la zoom fatigue en publicité. Quand tu as trop vu une publicité, bah, il y a la ear fatigue, la fatigue de l'oreille. Et en fait, j'avais sponsorisé Marketing Square avec mon propre outil Reachmaker. Et en fait, au début, je faisais beaucoup d'acquisitions. Et au bout de 100 épisodes, parce que voilà, j'ai monétisé au bout de 3 mois, mais vous voyez, il n'y a pas de règle. Mais par contre, j'avais 100 épisodes. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne faisais plus rentrer de leads. Les gens, ils connaissaient par cœur Reachmaker. Et soit ils adhéraient à la vision, soit ils n'adhéraient pas, mais j'avais un effet de plateau. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, en fait, quand je travaille avec des marques sur des posts LinkedIn, des choses comme ça, pourquoi pas essayer de les recruter aussi sur le podcast, parce que la qualité d'attention sur un podcast, elle est excellente. Autant les canaux visuels, ils sont saturés, autant quand vous êtes dans l'oreille des gens, c'est encore un canal qui n'est pas trop exploité. Et aussi, l'oreille, c'est un canal très intime. Donc, la qualité d'attention, elle est invraisemblable. Et il y a des liens, bah, tu le sais, des liens qui se créent qui sont particuliers. Donc, je me suis dit, par hasard, je vais commencer. La prochaine marque qui me contacte, et ça a été Iconosquare à l'époque, bah, je vais leur proposer de sponsoriser le podcast. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un package LinkedIn Podcast. Donc, je leur ai proposé le podcast comme un plugin, finalement. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai signé mon premier partenariat en janvier, donc 3 mois après avoir lancé mon podcast.
Effectivement. Et du coup, sur quoi tu te bases ? Parce que mine de rien, en termes de monétisation, évidemment, il n'existe pas de grille tarifaire. On a quelques contenus par-ci, par-là, quelques infos distillées. Mmh. Donc toi, comment est-ce que tu décides finalement de valoriser ton travail et de t'assurer de fixer les bons tarifs, mine de rien ?
Bah là-dessus, justement, il y avait un écran de fumée. Donc, quand j'ai lancé Richmaker, il y a plein de créateurs qui sont arrivés sur la plateforme qui ont dit, bah, nous, on veut vendre, mais à quel prix ? Du coup, j'ai créé un outil gratuit qui s'appelle le Rich Calculator, qui permet, en fait, de mesurer un peu le coût de votre audience. Et pour pas que ce soit du bingo bullshit de « Ah bah, j'ai parlé à ma copine Antelle, elle vend tant et du coup, ça donne pas un bon aperçu du marché. » Moi, je me suis calée sur les indices publicitaires. Donc ça s'appelle la Earned Media Value. Et en gros, l'idée, c'est combien ça coûte une vue sur LinkedIn, combien ça coûte une écoute de podcast. Et en fait, si vous rentrez vos chiffres médians sur cet outil, on vous les mettra dans les ressources de l'épisode, je les enverrai à Safia, et ben, vous allez avoir déjà un ordre d'idée de combien vous pouvez vendre. Et après, ça, je tiens à le dire, ça vous donne un peu un minimum, minimum viable audience, comme pourrait dire Anne-Claire Lecatte que tu as reçu. ça vous donne un ordre d'idée minimum. Et après, à vous de dire, bah, en fait, aujourd'hui, mon taux d'engagement, il est important. Aujourd'hui, je suis nichée. Par exemple, si vous êtes sur un podcast de niche, par exemple, Amal Cosma, qui est sur les micro-crèches, vous allez vendre plus cher qu'un podcast généraliste. Pourquoi ? Le taux de conversion, il est meilleur. Des gens qui écoutent un podcast sur l'endométriose ou les micro-crèches, si derrière vous poussez un produit ou un service associé, vous allez beaucoup mieux convertir que si vous êtes sur l'entrepreneuriat et que vous postez et que vous êtes sponsor, par exemple, d'un outil marketing. Donc, c'est pour ça que la niche, elle est aussi à prendre en compte et l'engagement de votre audience.
Ouais, c'est vrai que c'est bien que tu le mentionnes parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont tendance à juste penser en termes de statistiques, mine de rien, et d'écoute, et qui ne prennent pas en compte le fait qu'ils sont potentiellement l'un des seuls podcasts dans une niche très précise alors que ça a une valeur dingue, quoi.
T'as tout dit, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la chose la plus vraie que j'ai entendue sur la valeur du contenu concret, c'est la valeur de votre communauté. C'est pas le nombre, c'est la rareté. Et réfléchissez vraiment comme ça, une audience fitness, moi qui suis dans l'influence, une audience fitness de 100 000 personnes sur Instagram, ça vaut moins pour une marque potentiellement que 100 personnes sur la sexologie sur YouTube.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est important. Il n'y a pas de bon moment pour monétiser. C'est un, est-ce que vous le sentez ? Deux, est-ce que vous en avez besoin ? Ça c'est important aussi, on en parlera, comment passer à l'échelle et réinvestir ses revenus pour faire grossir son podcast. Et la troisième partie, c'est est-ce qu'il y a une vraie affinité, donc un vrai win-win, parce que faut aussi remplir vos engagements si vous travaillez avec une marque, c'est essentiel pour créer du bouche à oreille, surtout si vous aimez pas vendre.
Ouais, ça c'est un truc, alors on avait fait une interview sur mon podcast Build Yourself où on avait parlé effectivement un petit peu à ce moment-là, parce que c'était assez nouveau pour toi, de monétisation, et c'est vrai que tu avais mis l'accent sur le fait que avoir une sponsorisation, un partenaire, c'est bien, mais il faut que la personne soit, que de l'autre côté, les personnes soient hyper contentes du travail, que toi, tu donnes le meilleur dans la collab et dans le contenu que tu vas créer, parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Et je me souviens de ce point-là, effectivement, que tu avais mentionné.
Pour être au quotidien dans Richmaker, qui est un espèce d'incubateur du partenariat, je vois que les partenaires qui échouent, c'est ceux qui sont tout le temps en train d'attendre de l'autre côté ce que l'autre va faire pour faire un donnant-donnant. Ouais. Ça, mais même dans l'amitié, même dans l'amour, moi je suis convaincue que ça marche pas et que tout le monde est perdant avec cette logique. Si tu commences par envoyer le signal fort, tu crées l'effet papillon, tu dis bah en fait moi je veux défoncer ce partenariat, en fait j'ai signé ça, ça et ça comme engagement, je vais faire deux fois plus. Là ton partenaire en fait il le note, il y a l'effet waouh, et en plus lui de son côté non seulement il va être hyper content, il va re-signer avec toi, il va en parler, mais en plus derrière le signal que t'envoies aux autres sponsors qui se disent bah est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quand ils voient tout ce que tu fais, que tu mets du cœur, que tu défonces ton truc et que t'étais même pas censé le faire, bah en fait ton bouche à oreille il est naturel.
Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un point qui a souligné, je pense, parce que c'est... Alors, dans certains domaines, tu vois, les collaborations, c'est hyper banalisé. Et mine de rien, je trouve qu'on voit tout de suite les créateurs qui mettent beaucoup plus d'énergie que les autres. Pas forcément dans le podcast, mais dans tout, même dans les Instagrammeurs, etc. Tu le vois quand une personne, elle a vraiment travaillé sa collaboration et quand elle le fait, elle va vite, quoi.
Exactement, mais tu l'as dit aussi, c'est dans tout. Dans la vie, si vous voulez des résultats extraordinaires, il faut créer, il faut faire des efforts extraordinaires. Ça va avec. Donc, vous voulez cartonner vos partenariats, soyez la personne que vous avez envie d'avoir en face. N'attendez pas, faites pas le miroir avec l'autre, sinon personne ne bouge et on va perdre beaucoup de temps.
Exactement, c'est une très belle phrase. Je pense que ça va être le teasing de cet épisode. pour parler de monétisation, est-ce que toi, tu as fixé tes tarifs, ou en tout cas aujourd'hui, est-ce que tu l'as fait à un moment donné sur la base du CPM, donc du coup par 1000 écoutes ? Parce que c'est là un peu la question. Tu vois, j'ai reçu Paco Desbonnaires de Investisseurs 4.
Investisseurs 4.0. Voilà. Il est trop sympa.
Qui t'a d'ailleurs reçu il y a pas...
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Longtemps. Et effectivement, lui, en fait, il se base sur le CPM pour effectuer ses tarifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi aussi ou pas du tout ?
Alors, on en parlait avant l'épisode. Moi, je suis rarement clivante. Mais là-dessus, attention, je ne vais pas me faire des amis. J'ai un point de vue assez clivant là-dessus et je vous donne du contexte. J'ai travaillé dans l'influence pendant presque 10 ans. Aux États-Unis, là où le marché de l'influence, il est beaucoup plus mature.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, le modèle du CPM, je suis convaincue que ça n'est pas intéressant pour les créateurs ni pour les marques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, je fais partie des vôtres, si vous m'écoutez. Performer sur LinkedIn, il est vendu au CPM. Je pense aujourd'hui que moi, en tout cas, ma volonté pour mon podcast, c'était de pouvoir très rapidement réinvestir. Donc, ça veut dire que j'ai voulu avoir de la trésorerie très vite. Le problème du CPM, c'est que quand on achète quelque chose à la volumétrie d'écoute ou même d'impression, si on fait de la publicité en ligne, si vous n'êtes pas un gros créateur, vous allez mettre des années avant de gagner des gros montants. Donc, moi, ce que j'ai fait avec Marketing Square, c'est que je vends du package et je vends une vraie collaboration avec la marque. On fait les épisodes ensemble. Quand je signe mon partenaire, par exemple, Agora Pulse, ils font des réseaux sociaux. On signe un package où, en fait, je les référence à vie. Et c'est la vraie valeur d'un podcast, c'est que c'est valable à vie. Et moi, du coup, je le vends comme ça. Alors, du coup, je n'ai pas l'effet cumulé. Ça veut dire que peut-être dans 5 ans, mes épisodes, bah, je vais avoir un manque à gagner parce que je les aurais déjà vendus. Mais comme je crée beaucoup d'épisodes, je n'ai pas peur de ça. Juste au cas où, pour ceux qui nous écoutent, je veux être sûre d'être claire. Du coup, quand vous vendez un podcast au CPM, si vous avez 100 épisodes libres parce que vous ne les avez pas vendus, à partir du moment où vous avez vendu 1000 écoutes, les écoutes, elles se régénèrent. Vous pouvez vendre à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez un catalogue important. Mais comme je vous dis, vous mettez du temps à gagner de l'argent. Moi, ce que je voulais très vite, c'était créer un studio pour faire du podcast vidéo, pouvoir enfin accueillir des podcasteurs qui disent bah, « on loue des endroits à Paris qui ne sont pas toujours optimales, c'est difficile de trouver les bons endroits ». Je me suis dit « je vais ouvrir un lieu et ça va être ça, ma prochaine étape de croissance. Ne pas enregistrer sur un micro à 100 balles sur Amazon avec des gens qui me disent « ah, mais tu as un son de salle de bain, c'est dommage, c'est intéressant ». Du coup, j'ai voulu faire rentrer de l'argent très vite, donc j'ai créé des packages. Aujourd'hui, Marketing Square, on s'est dit qu'on donnerait les chiffres. Marketing Square, il génère 20 000 euros de revenus par mois. Je vends un package qui est à la fois des posts sur LinkedIn où mes partenaires sont mentionnés et du coup des épisodes sur YouTube. YouTube, c'est quand même très intéressant pour les marques niveau référencement et du coup les écoutes sur toutes les plateformes. Mais je vends vraiment en package et je vends à vie et je vends en collab. Si je travaille avec un partenaire réseaux sociaux, on fait des épisodes réseaux sociaux et pour créer ma strat éditoriale, Safia, parce que ça c'est une question qui peut venir, du coup moi je parle de toutes les problématiques marketing et je vais créer un pool de partenaires à l'année. Je ne travaille qu'avec eux, je suis leur porte-parole et en fait à l'année j'ai un partenaire réseaux sociaux, j'ai un partenaire product management, j'ai un partenaire sur la data et je travaille comme ça mes piliers éditoriaux pour que à l'oreille mes auditeurs n'aient pas tout le temps des épisodes réseaux sociaux et voilà.
Effectivement, mais je trouve tu vois que c'est intéressant de miser sur la qualité plutôt que la quantité en termes d'organisation. Déjà effectivement ça n'a rien à voir en termes d'expérience pour les auditeurs, c'est cool, et aussi pour toi en fait c'est rassurant parce que sur toute l'année t'as déjà ton plan. Donc, tu sais que tu as déjà tel spot qui est fait, etc. Donc, mine de rien, ça tourne et ça rassure. Parce que un des points que j'avais souligné, moi, en discutant avec d'autres podcasteurs sur cette question du sponsoring, c'était l'incertitude. Parce qu'ils vendaient au mois. Tu vois, la plupart des podcasteurs font ça. Ils te vendent une collab au mois. Et ensuite, le mois d'après, ils se disent « bon, bah, faut que je cherche un nouveau partenaire ». Puis bonjour, pour aller en trouver un quand t'es pas non plus un podcast comme Génération Do It Yourself ou Bliss Stories. Alors qu'une méthode comme la tienne où tu construis sur du long terme et sur une plus longue durée, c'est beaucoup plus intéressant.
J'en suis persuadée et pour ceux qui nous écoutent, il y a un gros avantage à être un peu un indien dans la ville quand vous débarquez comme ça, vous êtes en train de lancer votre podcast ou de le relancer si vous écoutez cet épisode. J'étais très complexée parce que au début, je savais pas comment monétiser et du coup, j'ai fait un peu ma sauce. Et en fait, c'est hyper drôle qu'on en parle aujourd'hui et que j'ai généré du coup beaucoup de revenus sur le podcast, créé tout un studio, ouvert un lieu grâce à ça. C'est qu'au début, vraiment, on m'a un peu rayonné et on m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on doit monétiser un podcast. Du coup, dans 5 ans, tes écoutes, t'en profiteras plus. En fait, écoutez aussi votre cœur, et c'est bête, hein, et je travaille dans la data, mais il n'y a pas que la data. Écoutez votre cœur, votre instinct. Moi, j'avais envie de co-créer mes épisodes avec mes partenaires pour que ça crée de la confiance, pour que ce soit un vrai partenariat. Et j'avais envie de le faire comme ça. Donc, faites un peu votre sauce et complexez pas si vous faites une méthode un peu tarabiscotée. En fait, quand vous êtes face à votre partenaire, commencez par écouter. Moi, mes partenaires, ils me disaient, je veux faire de la conversion. Pour faire de la conversion, il faut que l'épisode, il parle exactement du produit dont vous parlez dans votre annonce de sponsoring. Donc, si j'ai un Agora Pulse, je ne vais pas leur mettre un épisode sur le product management et la data.
Ouais.
Donc, toujours commencer, vous parlez à un partenaire, mettez-vous dans sa peau à lui, et c'est comme ça que vous allez cartonner. Écoutez ce que vos partenaires ont à vous dire. La conversion d'abord.
Ouais, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important et que les gens oublient peut-être un peu trop de prendre en compte tous ces détails, mine de rien, qui semblent logiques quand on t'écoute. Au final, on n'y pense pas forcément. On se dit, tiens, je vais mettre un sponsor sur tel épisode sans réfléchir au lien, alors que bon, ça change tout, ça c'est sûr. Juste pour apporter un peu de contexte, quelle audience totalise Marketing Square par mois aujourd'hui, au moment où on enregistre?
Alors aujourd'hui, c'est environ, je vais dire 75 000. Ça dépend des épisodes. On a toujours des épisodes best-sellers qui pètent complètement les scores. Je vais dire entre 70 000 et 80 000 écoutes, donc certifiés IAB pour les puristes entre vous, comme on est sur Parlons Podcast et qu'il y a ma marraine de podcast en face de moi. J'ai la pression. Mais donc du coup, voilà, ça c'est mon nombre d'écoutes. Et puis après, bah, comme je vous ai dit, diversifiez-vous. Qu'est-ce que vous avez à offrir à côté? Moi, je redistribue sur YouTube. Donc ça fait grossir la valeur du podcast. Et pareil, c'est des épisodes en dur, donc achetés à vie. Ça veut dire que dès que quelqu'un va mettre une question sur Google en disant comment monétiser un podcast, eh ben, il va y avoir mon épisode qui ressort à vie avec le pré-roll de Safia qui dit ma formation Build Your Podcast est en ligne. Donc ça, c'est intéressant. Et puis si vous avez de l'audience, honnêtement, Instagram, LinkedIn, ça a de la valeur aussi. Et ça ne vous coûte rien de mentionner le partenaire quand vous faites sortir l'épisode. Et derrière, le partenaire, ça lui fait de l'itération, de la récurrence et de l'acquisition sur ses pages à lui. Donc, maximisez, prenez toutes vos forces, cartographiez-les et créez un package. Et après, écoutez votre sponsor. Si votre sponsor il dit bah, « j'ai un gros enjeu là-dessus cette année », créez-lui un peu du sur-mesure. Si vous commencez à monétiser, soyez pas trop rigide. Moi, j'ai baissé mes prix aussi au début. Ça, c'est une question où souvent... tu vois, là, je lance un format sur, sponsorisé sur YouTube. Et du coup, j'ai parlé à mon premier partenaire Agora Pulse qui m'a dit oui. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, toi, pour là, signer sans te poser de questions, c'est quel prix? Et derrière, je suis rentrée à la maison. Mon mec, il m'a dit, mais c'est une dinguerie, c'est pas comme ça. Et Alex Martel, elle dirait, non, faut commencer par très haut et tu baisses tes prix. Écoutez-vous. Et faites, ouais. En fait, il faut que quand vous vendiez un produit, vous ayez l'impression de rendre service. Donc, tout le monde a une personnalité différente. Moi, j'adore me dire, les premiers qui me font confiance, on travaille ensemble. Je veux un prix qui les arrange, je veux un oui direct. Et après, plus je sens de l'attraction, plus j'ai de la demande, plus mon audience, elle grossit, plus je fais évoluer mes prix et c'est normal et c'est sain. Et moi, j'aime bien vendre comme ça.
Ouais, je pense que c'est un message important. Effectivement, certes, il y a des règles, des bonnes pratiques, etc. Et c'est important que tu fasses ce qui te semble juste, ce que ton ventre te dit. Parmi ces partenaires que tu as... quel est le pourcentage de ceux que tu as démarchés?
Aucun.
Ok.
Je démarche aucun partenaire. Je suis très bavarde, tu le sais. je fais beaucoup d'événements networking à Paris.
Ouais.
Je donne fréquemment des conférences. Quand je donne des conférences, en général, des conférences sur LinkedIn, sur le growth, je suis devant que des CMO, donc des gens qui travaillent dans le marketing, le bouche à oreille, les conversations. Mais du coup, je ne fais pas de démarchage. Mais par contre, quand je parle à quelqu'un qui a, tu vois, un Agora Pulse ou que je regarde bah, sur Richmaker, je vois, ah bah tiens, il y a tel acteur qui vient de rentrer, trop cool, ça m'intéresse. Et du coup, là, je vais les voir, mais je veux dire, je fais jamais de la prospection froide. Bah, tu sais pourquoi maintenant avec Refer, j'y crois pas à la prospection froide. Et je pense que malheureusement, quand vous prospectez les gens à froid, potentiellement, il y a un rapport de force qui est pas cool. Ou bah, si vous prospectez, vous êtes en demande, position basse. Moi, je préfère créer de l'inbound ou des plateformes comme Richmaker, où en fait, c'est vous qui attirez le partenaire et on va vous dire, bah tiens, toi, Agorapulse, tu cherches des influenceurs. Il y a telle personne, telle personne, telle personne et on vient vous voir.
Du coup, ce que je note, ce que je retire de ça, c'est que mine de rien, le meilleur moyen de trouver des partenaires, des collaborateurs, c'est de se rendre visible.
C'est clair.
C'est de créer du contenu à fond, de donner le meilleur à chaque fois et les gens vont arriver assez naturellement, mine de rien, vers vous. Pour donner un exemple un peu plus concret, est-ce que tu peux nous donner une fourchette d'un package que tu vends ? Parce qu'on sait du coup aujourd'hui qu'il y a certes la promotion dans le podcast, il y a aussi du contenu sur LinkedIn et du contenu sur YouTube.
Ouais.
Combien est-ce qu'en moyenne tu factures ça à un partenaire ?
C'est trop bien que tu me poses la question maintenant parce que j'ai pas la mémoire des chiffres d'habitude, mais hier on a fait le rapport avec Agorapulse et du coup c'est important de le dire aussi pour tous ceux qui veulent sponsoriser. Moi à l'entrée du sponsoring, j'ai mon media kit avec le descriptif de toutes mes audiences, des exemples du coup de ce qu'ils achètent que j'ai déjà fait. Si vous n'avez pas d'audience, si vous n'avez pas de chiffres, pardon, commencez encore une fois, vous avez du mal à signer. Dites, c'est quoi le prix pour avoir un oui ? Comme ça, vous accélérez au lieu de chercher des sponsors pendant 6 mois. Donc moi, j'ai un media kit à l'entrée et à la sortie, j'ai un reporting très précis où on fait un retour d'expérience et ça, en général, bah, c'est comme ça que tu recloses. Et tu vois, à Agorapulse, on repart ensemble sur un deuxième mois de sponsoring, là en juin. Donc j'ai des sponsors où je les ai signés à l'année et en fait ils sont tellement contents qu'ils disent bah t'es dispo dans 2 mois, on le refait. Donc ouais. Soyez carrés. Et du coup les chiffres pour répondre à ta question, j'ai du coup 85 000 écoutes. Donc, je vous ai donné une moyenne. Donc, on a atteint 85 000 écoutes avec Agorapulse. Le minimum garanti, et ça c'est dans mon media kit, c'est 70 000 écoutes. Si je fais en dessous, je vous rembourse. Entre guillemets, c'est jamais arrivé, mais j'aime bien travailler comme ça avec les partenaires. Si je fais en dessous, je t'offre un épisode en plus. Vous allez vous dire, mais c'est un peu la méthode du bled. Bah oui, en fait, moi, je fais comme ça mes partenariats, c'est d'humain à humain. Je veux t'arranger et je veux que tu sois content. C'est tout ce qui compte, le reste, on s'arrange. Donc, j'ai 70 000 écoutes garanties. N'ayez pas peur de mettre des minimums garanties. Ça aide à closer et derrière, comme je vous dis, on trouve des solutions. On ne stresse pas, on ne s'inquiète pas avant, ça s'est stressé 2 fois. Derrière, j'ai eu 5000 vues sur YouTube, donc sur les épisodes de podcast qui continuent à grandir, du coup, comme les écoutes, 10% en moyenne par mois.
Ok, c'est pas mal. Hein. Voilà. Il y a la vidéo avec ou c'est que l'audio ?
Du coup, YouTube, c'est mes vues vidéo.
Okay.
Et les écoutes sur le podcast, c'est pas comptabilisé pareil.
D'accord.
Et sur LinkedIn, mon minimum garanti, c'est 200 000 vues. Encore une fois, je fais une médiane basse parce que le reach de LinkedIn est en baisse. Et là, j'étais trop contente, on a fait 400 000 vues. Et derrière, je leur ai fait un post offert. On avait déjà atteint nos objectifs, mais juste, ils ont fait une annonce trop bien pour un rapport sur les études social media. Et je leur ai fait un post en disant complètement gratuit, pas commandé, en disant putain, l'étude Agorapulse, elle va me servir dans toutes mes conférences. Et on a fait 50 000 vues sur ce truc-là, donc en user generated, juste en cadeau. Donc voilà comment un partenaire, en fait, il a signé avec vous à l'année et il se dit, est-ce qu'on peut le refaire dans 2 mois ? C'est commencer par donner, faites plus et pas hésiter à mettre des normes. Parce que souvent, les podcasteurs, ils ne donnent pas des chiffres. Ça fait trop peur aux marketing managers.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est au niveau de la tarification,
ouais.
tu factures combien environ un mois ?
C'est 18 000 euros,
okay.
Du coup, pour ce mois. Et ça correspond à 12 épisodes.
D'accord.
Et 12 posts. Ouais. Donc voilà.
Ok, bon, c'est intéressant. Merci pour ta transparence. Parce que laisse tomber le flou sur ce sujet-là. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec toi, et du coup j'interviewais hier Laurent Brouat, qui lui est l'épisode précédent avant le tien, et effectivement c'est aussi une personne qui investit beaucoup pour le podcast en France, qui a de nombreux projets notamment avec des podcasts et des thunes, avec son média Inspire sur scène, etc. Et donc toi l'argent que tu gagnes avec Marketing Square, en fait tu le réinvestis directement dans le podcasting. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de tes projets là-dessus ?
Je suis trop contente qu'on en parle parce qu'effectivement, c'est bien de gagner de l'argent, mais des formations professionnelles, on est avant tout des entrepreneurs. Je dis tout le temps, quand vous lancez un podcast, vous êtes CEO de votre podcast en fait. C'est pas un hobby, c'est pas un podcast, c'est une boîte, un podcast. Donc, ce que je pense très important à concevoir, c'est dès que vous commencez à monétiser, à gagner de l'argent, c'est comment je le réinvestis. il serait trop content, Paco, des investisseurs 4.0, qu'on dise ça. Mais c'est quoi l'étape d'après quand vous signez un partenariat, un sponsor? Déjà, vous avez peur que vos écoutes, elles déclinent. Rassurez-vous, si c'est bien fait, encore une fois, il n'y a aucun risque. Moi, ma monétisation m'a accéléré mes écoutes. Donc vraiment, j'avais peur, comme nous tous, quand on fait des nouvelles choses, on stresse en appuyant sur le bouton. Pas du tout. Et derrière, là où je, vraiment, ça doit driver votre croissance, c'est comment est-ce que vous allez utiliser cet argent-là pour acheter du meilleur matériel, mettre le paquet si vous voulez des plus gros invités, en faisant des cadeaux. Vous voulez avoir, bon, Xavier Niel, c'est un mauvais exemple parce qu'il vient jamais sur les podcasts, mais si vous voulez draguer un super gros invité, encore une fois, on n'a pas des résultats extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Ouais. Donc peut-être que vous allez mettre un petit ticket, un petit 25€ pour faire une invitation custom pour votre invité. Peut-être que vous allez acheter plus de votre propre temps pour faire des nouveaux formats, des choses comme ça. Mais ayez une pensée très clair, vous n'êtes pas obligé de faire un business plan si ça vous fait dresser le poil, mais en tout cas, dites-vous, comme un livret d'épargne, l'argent que je gagne, il y en a une proportion que je réinvestis. Et moi, je réinvestis 100%. Et ça, mes sponsors le savent, et c'est aussi un truc qui fait signer les marques, c'est que je leur dis, en fait, vous êtes plus que mon sponsor, vous êtes mon partenaire et vous êtes mon parrain. Et c'est grâce à vous, Agora Pulse, le studio, aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux acheter du meilleur matos. Évidemment que dès que mon studio vidéo va ouvrir, ils vont pouvoir venir faire leur contenu, leur truc. Je veux que ce soit un peu la famille. Et ça, c'est important. Voilà. L'étape d'après sur votre podcast, c'est quoi? Et redistribuer. C'est pas une parole de pimpin. C'est hyper important. En fait, les gens qui vous font confiance, c'est vos partenaires. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait, derrière, vous allez leur revendre au centuple. C'est vos investisseurs.
Ouais, c'est vrai que c'est important. Et du coup, tu l'as mentionné, tu travailles effectivement sur la création d'un studio. Oui. Vidéo de contenu pour les youtubeurs ou les instagrammeurs ou autres, et également un studio de podcast.
Ouais.
À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais créer un endroit de ce type?
En fait, j'avais l'impression, un peu comme Pénélope Boeuf dont on parlait de la toile sur écoute, j'avais l'impression que beaucoup de personnes se faisaient un monde de la création de contenu. Ah, moi, je peux pas créer des vidéos. Ah, moi, je peux pas faire un podcast. Et surtout, en fait, je le vois quand t'as une famille. Moi, je suis belle-mère de 3 enfants, donc c'est pas les miens, mais en fait, on vit ensemble, donc c'est les miens. C'est hyper difficile de se vider la tête chez toi. C'est hyper difficile de pas avoir honte quand t'es en train d'enregistrer un podcast et qu'il y a ton mec à côté qui dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» En fait, c'est intimidant. Et du coup, je voulais créer un lieu qui décomplexifie la création de contenu, où il y a déjà tout prêt, juste à appuyer sur un bouton. Et je voulais que ce soit un lieu où vous soyez potentiellement seul, en dehors de chez vous, un peu un lieu de créativité. Et du coup, je vais l'appeler le Square, je pense, l'endroit de récréation. Et ce que je voulais aussi, c'est que vous ayez une équipe avec vous, avec potentiellement, bah, tu vois, quand tu fais des vidéos, un miroir. Là, en ce moment, si tu vas sur mon Insta, j'ai lancé une méthode offensive de Reels.
Je l'adore, elle est très efficace.
Bah,
on te voit partout, même sur TikTok. J'ouvre TikTok, je te vois.
C'est impossible de faire des vidéos seule, Safia.
Ouais.
Coincée, j'ai mis 1 an à faire de la vidéo. J'étais là, comment ils font les autres? En fait, moi, je suis toute seule. Et même s'il n'y a personne dans la pièce, ce qui est déjà rare à la maison, même s'il n'y a personne dans la pièce, en fait, j'arrive pas à juste me parler à moi-même. J'ai besoin de l'énergie des autres. En fait, ça, quand tu as quelqu'un en face qui te pose des questions et que nous, on met juste une caméra sur toi et qu'en face, tu as un miroir, c'est-à-dire quelqu'un qui va juste dire, bah tiens, tu as fait un contenu là-dessus, parlement, bah là, tu t'animes, là, t'es dans la... c'est facile. Et en fait, en 3 heures, tu peux créer ton contenu sur 1 mois si tu es bien équipé. Et c'est pour ça que j'ai créé le studio, le Square. Je veux que ce soit un peu le studio de la marque personnelle et qu'en fait, les gens, ils viennent et on leur crée leur contenu clé en main, on les met à l'aise. Et on leur tend la perche, on leur met le pied à l'étrier.
Je trouve que c'est effectivement un beau projet pour le coup. Moi qui enregistre souvent des podcasts en présentiel, c'est vrai que je loue souvent des lieux qui ne sont pas du tout adaptés à ça, comme là où on est aujourd'hui.
Là, j'ai l'impression d'être dans Emily in Paris. Très belle, charme de l'ancien, comme diraient les agents IMO.
Voilà, style parisien, mais pas du tout insonorisé. Donc je gère avec ce que j'aime. Effectivement, je trouve que c'est un beau projet. Et du coup, je m'interroge un peu sur est-ce que tu as eu jusqu'à présent des challenges ou des galères sur ce projet-là?
Oh là là, plein. Les travaux à Paris, pour ceux qui ont déjà fait des travaux à Paris, franchement, ça fait un sujet de conversation à vie. Évidemment, j'ai eu un dégât des eaux au moment où je lançais le studio. Il y a eu 8 mois de retard. Le studio, il devait ouvrir le 1er mai. Il n'est toujours pas ouvert parce qu'on attend les panneaux acoustiques. Donc oui, les appartements en plus parisiens, il faut faire des gros traitements si tu veux qu'il y ait vraiment une qualité optimale. J'ai eu plein de galères. J'ai des sponsors. Tiens, on parle de monétisation, hyper important de le dire. J'ai eu des sponsors qui se sont désistés juste avant que les épisodes sortent.
Ah oui.
Donc ça encore, quand vous êtes averti, c'est vraiment un écueil à éviter, demander le versement d'un acompte.
Ouais.
Maintenant, je le fais systématiquement, c'est d'accord, t'as réservé ton mois, verse un acompte. Pourquoi ? Parce que moi, je fais que du off-street, donc ça veut dire que en fait, quand un sponsor me dit oui, non seulement je cure les épisodes pour lui, donc là, c'était un sponsor sur l'automatisation, donc j'avais créé du coup toute la trame sur les épisodes prêts à sortir, j'avais enregistré mon pré-roll, ce qui coûte de l'argent parce que t'as fait valider le script, t'as pensé, t'as fait le copywriting à la Nina, ouais. Le bon message pour convertir, tu l'as enregistré, tu l'as assemblé, ton monteur derrière, tu l'as payé pour que il te fasse le bon sound design, le bon truc, et en fait bah là j'ai perdu de l'argent et surtout ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit ah ça se fait pas, ouais. Et en fait ça arrive dans le business, donc déjà un, faut pas se braquer, faut pas prendre les choses personnellement, Dieu sait que c'est dur quand on parle de manque à gagner de 18 000 euros et que vous l'avez déjà potentiellement réinvesti, je te passe les dingueries derrière, donc demandez le versement d'un acompte quand vous signez un sponsor, c'est hyper important, et expliquez au sponsor, en fait, quand c'est expliqué, tout le monde comprend. Vous dites, bah voilà, j'ai eu des désistements de dernière minute. Maintenant, je demande le versement d'un acompte. Si c'est pas tant, au moins pour moi, c'est intéressant psychologiquement que tu me verses au moins ça. Mais voilà, ça m'a brisé le cœur parce que j'ai perdu beaucoup d'argent et surtout, tu t'es réjoui et t'as une fausse joie. Et ça, dans la vie d'entrepreneur,
c'est
le fameux roller coaster.
Ouais. Clairement. T'as une idée de quand ça pourrait ouvrir, du coup, ce studio ?
Le 15 mai. on attend les panneaux isolants, donc voilà. Mais écrivez-moi si vous êtes intéressée.
C'est ce que j'allais dire.
Et Safia, je pense qu'à ta prochaine session, même si c'est pas parfait, comme c'est toi, je sais que tu me jugeras jamais s'il y a encore des tuyaux qui pendent. Non, je plaisante. Et en fait, la salle YouTube, elle est finie. C'est la salle podcast qui est encore en préparation, où il y a encore un miroir. Voilà, j'ai appris plein de choses. Ça, c'est intéressant aussi. Dans votre carrière de podcasteur, vous arrêtez jamais d'apprendre. Là, je passe au podcast vidéo et je repars à zéro. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'être un énorme boomer quand il faut brancher les caméras, les trucs, les angles de vue. Donc, c'est hyper intéressant aussi d'ouvrir un lieu parce que tu vois, t'apprends encore en permanence. Donc, ça, c'est un truc à garder en tête. Vous réinvestissez et vous investissez aussi sur vous parce que vous montez en compétences sur plein de trucs.
Clairement. En tout cas, c'était trop cool de discuter avec toi et d'en savoir plus sur tous tes projets. Tu nous emmènes aussi, mine de rien, dans les coulisses de Marketing Square parce que c'est sûr que c'est un podcast que beaucoup de gens connaissent, mais c'est bien aussi d'avoir, tu vois, le spectre de l'autre côté, savoir, ouais, comment tu vis tout ça. Donc, je te remercie beaucoup pour ta
plaisir.
Transparence. Pour les gens qui ont du coup envie de découvrir ton travail, de suivre ton contenu et d'être tenu au courant pour le Square, on va l'appeler comme ça pour l'instant, peut-être qu'il aura changé de nom, on ne sait pas.
Ça, c'est possible avec moi. Souvenez-vous de mon premier podcast, les rendez-vous du co-marketing. Bon, pas grand monde s'en souvient, hélas. Bah déjà, merci Safia, parce que je l'ai dit au début de l'épisode, mais c'est hyper important pour moi. C'est toi qui m'as lancé avec ta formation. Donc, vraiment, un grand bravo à toi et je ne l'oublierai jamais. Tu as été un de mes premiers investisseurs sans le savoir. Et pour me retrouver, bah, si vous aimez la vidéo, YouTube. Si vous aimez la vidéo courte, Instagram. Et puis, si vous aimez les posts où on apprend des choses, comprendre un petit peu comment je monte mes projets, le kiffomètre de la semaine, tous les vendredis, je raconte ce qui s'est passé dans ma semaine. Donc voilà, c'est
sur LinkedIn.
Ouais. Mais surtout, envoyez-moi un petit message. Encore une fois, le podcast, c'est un média froid. Parfois, on en souffre. Et vous qui êtes podcasteur, qui nous écoutez, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à connecter avec nous.
Voilà. Carrément, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Safia. À bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.